Ribin, le magazine qui explore, qui voyage, qui découvre. Suivez nos micros sur les chemins de traverse.
Bonjour et bienvenue dans des ribines historiques et patrimoniales. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais en Bretagne, on a beaucoup d'églises et de chapelles, et pourtant très peu sont de style roman, autrement dit le style le plus ancien. Il y en a eu, mais la plupart ont disparu et ont été remplacés par des édifices de gothique rayonnant ou flamboyant. Parmi celles qui restent, il y a l'église de Locmaria à Quimper. Alors, l'église Notre-Dame de Locmaria est romane, mais elle a été remaniée bien sûr au fil des siècles. Ce qui est intéressant, c'est son histoire, le prieuré qui lui était attaché, le quartier tout autour. C'est sûr que face à la cathédrale Saint-Corentin de l'autre côté de l'Audet, elle a plus de mal à attirer les regards, et pourtant elle vaut le détour. Elle fête d'ailleurs ses 1000 ans en cette année 2022, et la Maison du patrimoine de Quimper propose cet été des visites dans le quartier. L'histoire, nous allons la remonter en compagnie de Bruno Le Gall, le conservateur en chef des archives municipales de Quimper. Et on va revenir d'abord sur le quartier de Locmaria et son passé lointain.
Les vestiges gallo-romains sont importants, c'est connu. Hein, c'est tout le travail de plus de 30 années de fouilles de Jean-Paul Le Billon sur ce site. Donc il y a une existence d'une agglomération, en tout cas d'une concentration humaine assez importante dès l'Antiquité, dès l'occupation romaine. Et ça va certainement subsister jusqu'à l'effondrement. De l'Empire. Et puis par ailleurs, il y a également des traces d'une présence encore carolingienne qui a dû être relativement mise à mal par les invasions ensuite vikings notamment. Néanmoins, les origines de Locmaria, quand on parle de l'abbaye ou de l'église ou de la seigneurie ou de l'ensemble ecclésial de Locmaria, restent obscures, faute de documents, faute d'archives tout simplement. Est-ce qu'il a pu exister un monastère antérieur, peut-être de rites celtiques liés à l'existence notamment d'une ancienne chapelle dédiée à Saint Colomban qui est signalée dans un document du XVIIe siècle encore en état de ruine, c'est possible. Est-ce que les deux monastères ont pu coexister à une époque? C'est possible aussi. En tout cas, il semblerait qu'il y a eu un double monastère puisqu'il y avait à la fois des hommes et des femmes qui ont coexisté. Les hommes probablement plutôt en charge de l'administration du temporel et les religieuses plutôt du spirituel. C'est pas, en tout cas, c'est une hypothèse, puisque les derniers hommes qui restent font fonction d'aumôniers pour les religieuses. Ceci étant, à partir de 2022, on entre vraiment dans l'histoire avec la date justement de la donation. C'est pas une fondation, c'est une donation des héritiers du comte évêque Bénédicte, qui est confirmé par son fils. Et donc là, on a un élargissement en fait des propriétés de Locmaria qui va bénéficier à l'abbaye. Cette abbaye-là va pas subsister d'ailleurs très très longtemps à l'état d'abbaye, puisque sous le règne de Conan III, l'abbaye...
Là, c'est quelle date à peu près?
Là, on est, je ne vais pas me tromper, en 1124. En 1124, donc l'abbaye est en fait est donnée par le duc à l'abbaye Saint-Sulpice, qui est une abbaye importante de la région de Rennes. Mais en devenant une dépendance de l'abbaye rennaise, l'abbaye de Locmaria est en fait rabaissée au rang de prieuré. Voilà, c'est l'origine du prieuré de Locmaria en fait. Le prieuré va subsister dans la dépendance de cette abbaye rennaise par la suite, abbaye bénédictine, et donc prieuré avec des sœurs qui dépendent de cette règle particulière.
Et alors, si on revient à 1022, puisqu'on a choisi cette date comme date emblématique, est-ce que vous pouvez nous donner une idée déjà du paysage, si possible ?
On peut imaginer simplement un petit ensemble, on va dire, aggloméré autour d'une petite église romane.
Quelques maisons, enfin quelques habitations quand même.
Quelques habitations, évidemment, quelques dépendances, puisqu'on est, sur une seigneurie également. Hein, donc ça veut dire qu'il y a, des vassaux, il y a des droits de, on va dire, de la prieure qui, ou de la, l'abbesse qui exerce un droit de justice, qui a un moulin banal, qui par la suite va également bénéficier de droits qui sont préemptés sur les bateaux qui circulent dans l'Audet.
Oui, parce qu'il y a déjà un port, enfin ça fait longtemps d'ailleurs.
Alors, le port médiéval existe à cette époque-là à Quimper, hein, il n'y a aucun doute, et les bateaux vont plutôt dans le quartier de la Terre aux Ducs. Le secteur du quai du port au vin, c'est un lointain héritage de cette période où le duc en fait exerçait aussi déjà un droit notamment fiscal sur les marchandises qui étaient déposées non pas dans la cité épiscopale mais du côté de la paroisse Saint-Mathieu qui correspond à la Terre aux Ducs.
Oui, c'est la question que je voulais vous poser, parce qu'on dit que Locmaria, c'est le berceau de Quimper. Enfin, je ne sais pas à partir de quand déjà on parle de Quimper, proprement dit. Et puis, qu'est-ce que vous en pensez, justement ?
Alors, oui, dans la mesure où on parle du périmètre de Quimper d'aujourd'hui, c'est-à-dire que, par contre, le Quimper antique, il n'existe pas en tant que tel, puisqu'il est à Locmaria, qui n'est pas dans la cité épiscopale, mais il y a débat sur la présence éventuel d'un siège d'évêché qui aurait pu exister sur le Frugy. C'est un questionnement d'historien et d'archéologue, donc là-dessus je ne vais pas trancher, mais en tout cas oui, le Quimper antique existe mais à Locmaria, mais ce n'est pas Quimper encore. Quimper le confluent est vraiment, c'est une création qui est postérieure à... Oui, avant 1022 Quimper existe, hein, il n'y a aucun doute. Sur la rive droite, Saint-Mathieu existe, la Terre aux Ducs existe, il y a des conflits qui vont longtemps, on va dire, opposer d'ailleurs les ducs de Bretagne aux évêques sur des prééminences, sur la présence d'un petit château ducal au confluent, etc. Donc oui, il y a une présence importante, hein, urbaine, sur Quimper, à l'époque où l'abbaye de Locmaria héberge, on va dire, des âges sombres. Mais pour autant, avant 1022, je vous disais, on n'a pas de charte de fondation, on n'a pas de texte qui nous éclairerait de manière définitive sur la datation, l'origine de cette abbaye, en fait.
Et donc, parfois, c'est un château qui fonde une ville. Là, on peut dire que c'est un ensemble religieux qui a fondé la ville, quoi.
Si vous dites que Saint-Corentin a fondé la ville de Quimper, oui, je veux bien. Oui, c'est religieux qui a... Le religieux, et non pas le... On va dire, non pas le pouvoir royal ou ducal qui a fondé. Quoique, on peut dire que si Quimper est né d'une inondation par un roi Gradelon... on va dire hypothétique, ou en tout cas un peu légendaire, à Saint-Corentin, oui, c'est une création royale dans ce cas-là, ou en tout cas dans la monarchie ou la royauté du haut Moyen-Âge breton. Mais là, on est sur quasiment, non pas sur la vie des saints, quoi, c'est autre chose. Mais en tout cas, oui, la création de Locmaria, son développement, sont à l'origine liés à la présence, évidemment, d'une communauté religieuse importante, donc d'une abbaye, d'une seigneurie ecclésiastique, et puis d'un rayonnement aussi qui se fait au fil des siècles de plus en plus important, dans la mesure où, notamment à partir du XVIIe siècle, on voit des prieurs, c'est-à-dire les dames qui, religieuses qui dirigent la communauté, qui appartiennent de plus en plus à des familles nobles, relativement importantes parfois, et qui vont finalement permettre aussi d'attirer un certain nombre de novices, de religieuses, de dons, d'autres famille, et notamment par le fait que des nouvelles religieuses appartiennent aussi à des familles plutôt privilégiées et rejoignent la communauté. Donc ça va...
Même si ça n'est qu'un priori, entre guillemets.
Même si ça n'est qu'un priori, à la veille de la Révolution, on a encore une vingtaine ou un peu plus d'une vingtaine de religieuses. Et une bonne part appartiennent soit à des familles, on va dire, de la bourgeoisie, soit des familles de la petite noblesse encore. On a quand même des familles qui sont locales, enfin bretonnes, je veux dire. Pour autant, les sœurs converses, c'est-à-dire les sœurs qui servent plutôt, qui elles sont au service des autres sœurs plus... on va dire, mieux dotées, et qui en fait sont des domestiques des autres, très souvent. Elles sont vraiment locales, mais elles sont très pauvres. Elles n'ont pas les mêmes dotes, elles n'apportent pas la même fortune à la communauté, et par conséquent, ce sont plutôt des jeunes femmes qui sont issues de ce qu'on n'appelle pas encore le tiers-état, quoi.
Un prieuré, je sais qu'une abbaye possède des terres en gros, mais un prieuré, ça possède aussi qu'est-ce que c'est le pouvoir du prieuré?
Le pouvoir du prieuré, c'est une seigneurie, donc ça comprend des terres, des fermes, ça comprend des droits qui sont prélevés sur des productions agricoles, qui sont des taxes qui sont prélevées sur des marchandises, ça peut être des privilèges qui sont dédiés à tel ou tel, qui sont dédiés à la représentante de cette seigneurie ecclésiastique, c'est-à-dire la prieure de la communauté. Donc tous ces droits forment, comme dans une seigneurie, on va dire, laïque, les droits du seigneur, qui sont multiples. Ils existent. Il y avait des fourches patibulaires qui ont pu exister.
C'est quoi?
Alors, c'est le droit de haute justice. Donc, c'est le droit de, on va dire, d'exécuter, de condamner et d'exécuter des criminels ou des délinquants. Donc ça a pu exister, puisque le droit existait, en tout cas, dans la donation qui a été faite c'est la confirmation qui a été faite en 1115, vers là, par Henri Plantagenet, de mémoire. Mais en tout cas, c'est une véritable, petite seigneurie.
Dirigée par des femmes, donc il y avait des seigneurs femmes, en fait.
Oui, la dame exerçait les privilèges liés à la possession d'une seigneurie, ou à l'exercice de ces privilèges-là. Oui. Mais
sur quel rayon d'action, d'ailleurs, pour Locmaria? Enfin, ça a dû évoluer dans le temps, j'imagine, mais c'était petit, quoi. Enfin, vous diriez que c'était modeste.
Oui, à mon avis, oui, c'était relativement modeste, oui. Oui, tout à fait.
Pour en revenir aux grandes étapes de l'histoire de Locmaria, donc de 1022 à nos jours, qu'est-ce que vous mettriez en avant comme grandes étapes historiques?
Donc, on va dire l'apparition officielle dans l'histoire de l'abbaye de Locmaria. Ensuite, sa disparition en tant qu'abbaye au profit de son rattachement comme prieuré à une abbaye rennaise. Puis ensuite, il y a des périodes qui sont un peu mal connues, notamment pendant les guerres de la Ligue, à la fin du Moyen-Âge, notamment lors des périodes troublées, soit par la peste, par les guerres, etc. Donc on n'a pas d'éléments très importants sur la façon dont l'abbaye a traversé ces époques troublées. Mais en tout cas, la réforme catholique s'exerce aussi dans cet abbaye, enfin dans ce prieuré. Je crois que Don Michel Le Noblet vient y prêcher à son tour, probablement aussi le Père Monnoir. Donc il y a une réforme, on va dire, de la pratique et du culte qui a dû être repris en main aussi à cette époque-là. Au XVIIe siècle, on a donc un relèvement à la fois de la communauté, avec la possibilité d'accueillir aussi des pensionnaires, quelques-unes qui payent, qui viennent avec leurs domestiques et qui sont là pour un certain temps. Un petit nombre, hein, à mon avis, il n'y en a pas beaucoup, mais ça participe un peu de l'aura aussi du prieuré. Et puis, il y a quelques périodes de troubles, notamment toujours au XVIIe siècle, lorsque trois religieuses de la famille Talouette se succèdent, elles sont sœurs de mémoire, et ça va occasionner un certain nombre de dissensions dans la communauté, qui devra être un peu repris en main. XVIIIe siècle, c'est l'époque où l'argent rentre plutôt bien dans les caisses du prieuré, et ce qui permet la construction des bâtiments qu'on voit aujourd'hui, donc des beaux bâtiments qui sont la maison priorale qui existe toujours, hein, le prieuré Locke Maria. Donc ça, ce sont des bâtiments qui vont ensuite avoir une autre destination, mais parce que la Révolution approche aussi. La Révolution, 1792-91, la communauté en fait refuse la constitution civile du clergé, et donc les sœurs vont finalement se retrouver dans une position délicate. Elles vont être expulsées. En 1793, en décembre, c'est le sac de la ville de Quimper, donc la cathédrale est saccagée, mais aussi les communautés religieuses, les couvents, Saint-François, et Locke Maria, le lendemain du sac de la cathédrale, va être aussi victime des saccages révolutionnaires. Donc, par la suite, l'armée, en tout cas les révolutionnaires vont utiliser Locke Maria comme d'autres bâtiments pour le bénéfice des troupes qui peuvent en avoir besoin. À la même époque, on va transformer la cathédrale en grenier à blé, hein, donc, et à Locke Maria, par contre, la présence militaire va subsister jusqu'en 1946 quand même. Donc, pas évidemment dans la chapelle, pas dans l'église de Locke Maria, pardon, mais dans le prieuré, le bâtiment donc au départ qui est un ensemble relativement cohérent, qui architecturellement parlant, et qui va être dédié à ce qu'on appelle la manutention, c'est-à-dire l'intendance militaire qui au fil des années va vraiment s'installer sur place, puisque
c'est pas une caserne, enfin c'est vraiment plutôt pour le matériel,
c'est pour l'intendance, donc c'est plutôt pour les stocks, notamment alimentaires, voilà. Et en 1887 de mémoire, le bâtiment prend le nom de caserne Muriau, du nom bizarrement d'un amiral, alors que c'est l'armée de terre qui occupe les lieux. Enfin bon, c'est une bizarrerie.
Oui, mais si c'était là, j'imagine que c'était en raison de la proximité du port, peut-être, non ?
Non, ça n'a pas lien, enfin pas vraiment de lien avec la proximité du port. C'était la disponibilité des lieux qui a fait l'occasion que l'armée s'y est installée. Plutôt, mais c'est vrai que en période de troubles, notamment pendant les guerres de l'Empire, l'Audet est devenu un axe important d'alimentation du Finistère, et notamment de Brest ou même de Morlaix, puisque ça permettait ensuite d'éviter de trop passer par la mer, qui était souvent surveillée par les escadres anglaises. Donc en passant par les canaux, par ensuite la terre et ensuite par Châteaulin, ça permettait de remonter de manière plus sécurisée. Mais pour revenir à la manutention de la caserne Muriau, ça va rester également pendant la guerre sous occupation allemande. Hein, les Allemands vont occuper les lieux, et puis c'est à nouveau l'armée qui va reprendre après la libération le bénéfice. Puis l'armée va rétrocéder en fait les lieux à la ville de Quimper. La ville de Quimper qui aura au fil des années plusieurs utilisations, plusieurs projets qui vont être étudiés. Il y a eu l'idée d'en faire un centre nautique, l'idée d'en faire un centre d'art. Il y a eu toutes sortes de projets qui ont finalement abouti à un choix qui était autre, celui qui a été de céder en fait ces bâtiments pour être rénovés au profit de la création de logements.
Il y a l'hôtel aussi qui est dedans, non ?
Le restaurant qui en fait est installé dans l'ancienne porterie du prieuré. Donc cet endroit qui permettait, en fait, c'est une espèce de sas entre la partie enclose qui était réservée où les laïcs ne passaient pas, n'entraient pas. C'était un endroit qui permettait les échanges entre les religieuses qui étaient en clôture et le monde extérieur. Voilà, c'était un endroit de contact.
Et alors, vous avez mentionné la cathédrale Saint-Corentin, mais vous n'avez pas mentionné son impact sur Locmaria dans l'histoire, enfin, en termes de pouvoir ou de déplacement de la ville, en fait, quelque part. Est-ce que vous pourriez m'en dire un mot de ça ? Comment la construction de la cathédrale a finalement, j'imagine, quand même eu un impact sur le prieuré de Locmaria, non ?
Il y a la proximité, oui, la proximité peut-être de la ville a fait que Locmaria est devenue finalement l'une des 7 paroisses de Quimper. Mais pour autant, la proximité géographique fait que, notamment au XVIIIe siècle, on va aménager en fait un lien physique qui est les allées de Locmaria. C'est une promenade à partir du milieu du XVIIIe siècle et ça va vraiment lier en fait le quartier de Locmaria à la ville, on va dire, à proprement parler, de Quimper. Voilà, après, l'histoire de l'évêché est liée à la création de l'évêché. Donc la création de l'évêché est bien antérieure à celle du prieuré. Ou de l'abbaye même si on ne sait pas trop, hein, mais en tout cas elle n'est pas liée. Il n'y a pas une c'est pas l'évêque qui a décidé de créer à notre connaissance l'abbaye de Locmaria.
Il n'y avait pas de rivalité, c'est ça que je veux dire en fait, quoi.
Ah si bien sûr, il y a quand vous avez sur un territoire voisin, voire un même territoire, différents pouvoirs, vous avez des rivalités. Vous avez des rivalités entre le pouvoir de l'évêque qui est seigneur en sa cité, mais qui exerce aussi un certain nombre de privilèges et qui entend les faire respecter. Et puis, on va dire le temporel de l'évêque et puis le temporel aussi du pouvoir royal, ducal précédemment, royal ensuite, et qui entre automatiquement en conflit à un moment donné sur des préséances, sur plein de choses, et un certain nombre de droits ou de taxes, d'impôts, etc. Et les seigneuries secondaires, on va dire, ecclésiastiques notamment, les communautés religieuses, parce qu'il y a un certain nombre d'autres abbayes, à Quimper, automatiquement, la justice d'Ancien Régime est remplie de ces procès qui durent des décennies, sans jamais aboutir vraiment, et qui sont soumis aux différentes cours, que ce soit du présidial, des régaires, etc., pour essayer de trancher entre les différents acteurs. Mais effectivement, il y a eu des procédures à très longue durée entre les religieuses de Locmaria et puis le chapitre cathédral ou bien avec l'évêque. Ça, c'est... Oui, ça a existé, oui, bien sûr.
« La Maison du patrimoine de Quimper organise en juillet 3 visites nocturnes. Le diable est dans les détails à Locmaria, donc des visites dont vous êtes l'héroïne ou le héros. On peut aussi parcourir le quartier tout seul en suivant le livre et jeu Maout à Locmaria. Par ailleurs, au prieuré de Locmaria, qui est devenu un espace d'exposition, vous pourrez voir les œuvres de plusieurs artistes qui vont venir aussi à la rencontre du public jusqu'à la fin du mois d'août. Enfin, les journées du patrimoine à Quimper en septembre feront la part belle à ce vieux quartier et à son église millénaire.